À 23 pas,
l'énigme du clou chinois aux portes des ténèbres,
du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
De Kaladma Radio, bonjour, vous écoutez à 23 pas du mystère, l'émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Sous la houlette du maître Jérôme, le maître des lieux, nous allons essayer de vous faire découvrir un peu ces deux univers. On a déjà enregistré une première émission le mois dernier que l'on mettra en podcast, pour, si vous voulez en profiter un petit peu. Mais je cède tout de suite la parole à maître Jérôme pour savoir... quel est le menu de cette journée ?
Bienvenue à 23 pas du mystère. Donc dans cette deuxième édition, nous avons consacré notre dossier à une revue devenue célèbre, même légendaire, voire mythique, Métal Hurlant.
Eh oui, la revue Métal Hurlant.
Et pour vous en parler, nous avons fait appel à un spécialiste de cette revue, Gilles Poussin, qui nous dira tout et encore plus sur la machine à rêver.
On a précisé que c'est une revue de bande dessinée de science-fiction.
On parlera de tout cela lors du dossier, cher D'accord. Patrick. Ensuite, nos fidèles chroniqueurs prendront la relève. Geek Patrick nous parlera de SF politique à travers un roman paru en 1974.
Ça ne nous rajeunit pas.
Et Miss Lemon nous parlera de l'étoffe d'un commissaire de police suédois qui, lui, n'a pas l'élégance d'un James Bond. C'est le moins qu'on puisse dire.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Nous avons donc le plaisir d'accueillir Gilles Poussin pour le dossier de ce mois. Bonjour Gilles.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Tu es donc un passionné, un grand connaisseur de bande dessinée. Tu as écrit dans de nombreuses chroniques et tenu des rubriques dans un nombre appréciable de magazines et de revues d'études de la bande dessinée, comme l'Écho des Savanes, le collectionneur de bande dessinée, DBD, les cahiers de la bande dessinée. Tu as également écrit dans des revues musicales, Rage et Musique, qui était une émanation de Jazz Magazine, avec une rubrique à toi, qui s'appelait Les Bulles du Poussin.
Oui, c'est vrai.
Tu as créé toi-même une revue trimestrielle qui s'appelait Ogun en 1995. Actuellement, tu collabores à la revue Tonnerre de Bulles, pardon, et tu es le président d'une association nouvellement créée, une association byzantine qui s'appelle Dessin Comtois, qui a pour but de promouvoir les dessinateurs de Franche-Comté, mais pas ceux de Bourgogne, il ne faut pas faire attention, et qui organise actuellement une exposition consacrée à Jean César, le créateur d'Arthur le Fantôme et des Rigolus et des Tristus notamment, qui est visible actuellement au Bain d'Ouche à Batan, à Besançon, et que vous pouvez encore voir quelques jours. Mais si nous t'avons invité aujourd'hui, c'est parce que tu es le co-auteur, avec Christian Marmonnier, d'une histoire du journal Métal Hurlant. Histoire intitulée Métal Hurlant, la machine à rêver, qui est parue chez De Noël en 2005 et qui a été rééditée récemment, en 2021, avec une préface inédite de Jean-Pierre Dionnet. Tu vas donc nous parler aujourd'hui de ce magazine qui fête cette année, 2025, ses 50 ans.
Oui, oui, tout à fait. Ça a démarré en janvier 1975, Métal Hurlant, avec une création de la maison d'édition Les Humanoïdes associés en décembre 1974, avec la parution de l'album donc Le Bandard Fou, qui était paru de Moebius. Et donc, revue trimestrielle consacrée à la science-fiction, puisque trois des quatre fondateurs étaient des amateurs éclairés de la SF.
Donc Gilles, tu vas nous parler aujourd'hui de ce magazine qui fête en 2025 ses 50 ans et qui a eu un retentissement international, qui a influencé énormément de gens, de créateurs à travers le monde entier.
Oui, c'est assez exceptionnel d'ailleurs pour un magazine tout court, et encore plus pour un magazine de bande dessinée, c'est ce rayonnement international qu'il y a eu.
Et donc il y a démarré... exemples, tu peux nous donner quelques exemples.
Par exemple, tu as l'influence évidemment dans le cinéma avec Ridley Scott sur Alien et surtout Blade Runner. Ouais. Tu as George Miller avec Mad Max et même Lucas avec ses Star Wars. Et donc, c'est plutôt sur du cinéma de genre,
d'accord,
plutôt science-fiction, mais également sur des dessinateurs,
ouais, des illustrateurs,
illustrateurs, hein, et même des écrivains.
D'accord. Et comme illustrateur, il y a notamment celui qui a illustré.
Alors, il y a
Seigneur des Anneaux, je crois.
Oui, John O, qui a même livré des bandes dessinées à Metal Hurlant, une demi-douzaine, avant de s'occuper du Seigneur des Anneaux, vraiment en tant que directeur artistique. Et tu as eu aussi comme ça d'autres gens qui n'ont fait que passer dans Metal Hurlant, mais qui après
ont brillé ailleurs
comme Geoff Darrow, par exemple, qui était directeur artistique des Matrix.
D'accord, très bien. Passionnant. Donc, on va commencer par un petit historique de la création de Metal Hurlant. Donc, en janvier 1975, sort le premier numéro. Et tu vas nous raconter un peu comment c'est arrivé avant
Oui, bah, disons brièvement, ce qui s'est passé, c'est que trois des quatre fondateurs, donc à savoir Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Jean Giraud d'Imobius, étaient des passionnés invétérés de littérature, de science-fiction, et se sont rencontrés relativement tôt dans les années 60, et ce qui a été un peu la chrysalide, c'est l'hebdomadaire Pilote, qui était dirigé par René Goscinny, où ils ont travaillé tous les trois.
D'accord.
Et à un moment donné, il y a eu un clash dans Pilote, où Nikita Mandrika, Claire Bretéché et Marcel Gottlieb ont créé le trimestriel et l'époque L'écho des savanes.
Ça, c'était en 1972. Hein,
tout à fait, ouais, en mai 72.
Donc, qui a donné peut-être l'idée à d'autres.
Oui, parce que l'idée venait de Robert Crumb aux États-Unis, qui s'auto-publiait dans son fanzine Zap Comics, qui était diffusé dans le quartier d'Aylesbury et Aylesbury à San Francisco, et qui était importé à Paris, et que Mandrika avait découvert, quoi. Et publié dans Actuel aussi. Et ça leur a donné l'idée, quoi.
D'accord.
D'autogestion.
Et donc, il y avait un quatrième, en dehors de ces trois, qui travaillait chez Pilote. Il y a eu un quatrième compère, disons.
Oui, c'est Bernard Farkas, qui venait des éditions Fernand Nathan. Et,
qui, lui, n'est pas ni un dessinateur, ni un
scénariste. Non, il a juste propagé, ce qui est déjà pas mal, Rubikube en France, bien plus tard. Mais sinon, on va dire que lui, c'était un peu le financier de l'étape, quoi, de la bande, quoi.
Donc, ces quatre-là s'associent, c'est le cas de le dire.
Oui, les humanoïdes associés en décembre 1974.
Ouais. D'accord, c'est une maison d'édition qui était destinée essentiellement à publier ce périodique qui est un trimestriel.
Au départ, Metal Hurlant, c'est un trimestriel qui aurait dû faire partie d'ailleurs d'un ensemble de dessins de revues donc publiées par Nikita Mandrika aux éditions du Fromage, donc qui s'occupait de L'écho des savanes. Et au final, suite à des problèmes financiers, ils ont repris leur bille et c'est là qu'ils ont décidé de fonder Les Humanoïdes Associés et Metal Hurlant en janvier 1975.
D'accord, très bien. Donc, ce magazine, qu'est-ce qu'il propose?
Alors, dès le numéro 1, c'est une explosion de talent, hein, puisque tu as quatre grands dessinateurs, tu as Moebius, tu as Druyet, tu as Jean-Claude Gall, qui venait aussi de Pilote, qui avait travaillé un peu avec Jean-Pierre Dionnet, et puis tu as Richard Corben, l'américain des quatre, qui était déjà bien connu en France via le mensuel Actuel.
D'accord.
Et là, c'est vraiment tout à fait...
Et leur domaine de prédilection, c'est la science-fiction, en fait.
Fondamentalement, au début. C'est une revue de science-fiction, bande dessinée.
C'est ce qu'ils voulaient créer, d'accord. D'accord. Donc, il publie de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre au sommaire des Metal Hurlant comme contenu? Il n'y a pas que de la bande dessinée.
Non, pas du tout. Très vite, Jean-Pierre Dionnet va développer tout un aspect magazine avec des rubriques, notamment à toute berzingue, où là, c'est des petites brèves, si on peut se permettre cet oxymore. Et également le mange-livre où là il répertorie toutes sortes de livres et même de films
sous forme de chroniques.
Voilà, sous forme de chroniques. Mais assez vite, ça va s'étoffer avec l'arrivée de Philippe Manœuvre en 1976, qui va devenir très rapidement secrétaire de rédaction. Mm-hmm. Et ils vont réunir autour d'eux un aéropage de chroniqueurs de talent comme Jacques Guamard, qui était un ancien professeur d'ailleurs de Jean-Pierre Dionnet à l'université.
D'accord, et qui dirigeait une collection de science-fiction,
tout si à je, fait,
j'ai
ouais.
lu.
Chez Presse Pocket.
Non, chez Presse Pocket, pardon, si je ne me trompe pas.
Et enfin, il y avait notamment, bien plus tard, le cinéaste Olivier Assayas qui parlait de cinéma. Quoi.
D'accord.
Mais ça a été une équipe qui s'est renouvelée, de Mange-Livre.
D'accord, très bien. Donc, on a vu un petit peu le contenu général. On va parler peut-être un peu de qui travaillait, enfin qui publiait à Métal Hurlant, quels sont les dessinateurs notamment.
Oui, enfin, avant de parler des dessinateurs, je voulais revenir quand même dans le contenu sur un aspect souvent négligé de l'aventure Métal Hurlant, c'est-à-dire l'aspect littérature. Oui. Car ils ont publié pas mal de littérature entre 77 et 81, dans la mesure où il y avait besoin, en tout cas au début, de remplir le catalogue. Et comme ils n'avaient pas assez d'auteurs BD maison,
d'accord,
et que Dionnet était un féru de littérature de toutes sortes, il a fait appel à des spécialistes pour diriger des collections de littérature.
D'accord.
Donc, par exemple, pour en prendre deux, vous avez Jean-Baptiste Baronian, qui était un spécialiste de toute la littérature.
Tout à fait, qui était directeur de collection chez Marabout.
Voilà, et donc, il a fait venir.
Qui romancier lui-même.
Il a utilisé à ce moment-là Philippe Manœuvre, du fait de ses contacts dans le milieu du rock, pour créer la collection Speed 17, grâce à un collègue de Philippe Manœuvre, Philippe Garnier, qui vivait à Los Angeles, ils ont pu récupérer et traduire le premier livre de Charles Bukowski, traduit en français, Mémoire d'un vieux dégueulasse.
D'accord, c'est chez eux que c'est sorti.
C'est chez eux que c'est sorti, et non pas ailleurs, comme certains le prétendent. Et puis, à côté de ça, il y a eu des collections spécialisées. Ça, c'était plus le côté Dionnet, avec François Rivière, où ils sont axés sur le maître de l'espionnage, Eric Ambler, qui était méconnu en France. Et il y a toute une collection consacrée
dédiée à
Eric Ambler. Et également un autre auteur, celui-là de science-fiction, qui s'appelle toujours Harlan Ellison. Et qui était un grand novelliste de science-fiction.
Très bien. Donc, tu vas nous évoquer un peu l'univers de la revue, ce qu'on pouvait y trouver, quel dessinateur intervenait là-dedans, est-ce qu'il y avait des écoles ou des chapelles, ou je ne sais pas comment appeler ça.
S'est passé, c'est que, aussi pour compléter, parce que c'est une maison qui a toujours eu besoin d'argent. Il n'arrivait pas à se stabiliser financièrement, donc il fallait trouver des moyens pour faire entrer de l'argent, d'où la création, par exemple, des hors-séries. Et dans les hors-séries, notamment, il y en a eu un très important, qui s'appelle hors-série rock, avec des dessinateurs donc, qui avaient pour la thématique sur le rock'n'roll, sur la musique. Et là, tout d'un coup, Franck Margerin, par exemple, qui s'était astreint à faire des histoires de petits vieux dans des milieux science-fiction, mais on sentait bien que c'était pas son truc, s'est révélé en créant cette bande de Ricky Banlieue. Ouais. Et le personnage de Lucien, d'ailleurs, qui est devenu le personnage emblématique de la série, était un peu en retrait. C'était pas lui le personnage principal.
D'accord.
C'était Ricky Banlieue. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu tout d'un coup, et aussi avec l'influence de Philippe Manœuvre, qui venait du monde du rock, une poussée de ce côté-là. Après, il y a eu l'embauche de Trembert et Jeannot, qui ont fait le rat qui est bras, qui vivait dans une banlieue pourrie, et qui avait bossé à Charlie Mensuel. Et puis, un peu plus tard, tu as eu donc des gens comme Dodo et Ben Radi, qui ont créé Les Cloches, un groupe un peu ska, Et après, un peu plus tard aussi, des gens comme Pierre Ouin, qui lui évoquait plutôt avec Bloody les gens qui avaient des problèmes avec des substances illicites, ou Max, qui lui parlait d'une science-fiction influencée par Philippe K. Dick, qui aussi avec un dessin que Jean-Pierre Dionnet affectueusement qualifiait de douanier Rousseau de la bande dessinée.
D'accord. Donc, effectivement, ça s'est diversifié dans ces domaines. Quels sont les dessinateurs un peu principaux? Bon, il y avait bien sûr Druillet, Moebius, qui officiaient. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être parler de ces deux-là d'abord, et puis ensuite évoquer d'autres dessinateurs qui ont marqué l'empreinte de Métallure Roland.
Ouais, j'aurais plus envie de parler de gens un peu moins connus.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'on a déjà tellement dit de choses sur Moebius et Druillet. Simplement rappeler que au démarrage de la revue, c'est plutôt Druillet qui est un peu le patron là au milieu, parce qu'il a explosé dans Pilote au tout début des années 70, et c'est devenu vraiment une référence.
D'accord. Parce que Moebius travaillait aussi chez Pilote, mais plutôt sous son nom de Jean
Giraud,
pour faire notamment le célèbre western complètement différent.
Alors, il y a eu une toute petite période de transition, ils se sont mis à faire une rubrique, les trois, dans Pilote, consacrée à la science-fiction. Ouais. Mais, à ce moment-là, même la première histoire typiquement meubusienne, qui est parue dans Pilote, elle est encore signée Gire. La déviation. S'appelle. Et c'est pas signé Moebius.
D'accord,
donc,
d'accord.
Quand il démarre Métal Hurlant, Moebius, c'est presque un nouveau dessinateur.
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, Druillet est vraiment celui qui entraîne. Et le point de bascule se passera dans les années 80, quand Druillet se retirera progressivement et provisoirement de la bande dessinée pour aller vers la sculpture, et que Moebius grandira graphiquement, quoi, notamment avec sa série L'Incal qui va réaliser avec Jodorowsky.
D'accord.
Donc ça, c'est pour les deux fondateurs.
Les deux principaux, disons.
Voilà. Après, tu as des gens comme Jean-Claude Gall qui sont vraiment très intéressants, parce que Jean-Claude Gall, il produit peu, il est lent, il est prof de dessin, il fait pas que ça.
D'accord.
Mais Les Armées du Conquérant, encore aujourd'hui, restent absolument splendides, ou La Vengeance d'Arne. Il y a très peu d'albums de cet auteur, mais c'est un espèce d'univers. On sait pas trop si on est... avant ou après la chute de l'Empire romain, ou dans un monde parallèle.
D'accord.
Et c'est un très beau dessin réaliste, et c'est quelqu'un qui est au même niveau que les deux autres, mais qui a eu moins de production.
D'accord.
Et qui est mort jeune en plus.
On a d'autres, alors je sais pas, je te cite quelques noms, des gens, dont Margerin, tu l'as évoqué. On a quelqu'un comme Yves Chaland aussi.
Alors Yves Chaland est très important, parce que ça devient un chef de file, donc de ce qu'on appellera un peu plus tard la ligne claire, nom inventé donc par Jules Fart lors d'une exposition Hergé. Et Yves Chaland, au départ, produit une BD parodique, on va dire, sur les bandes dessinées de son enfance, avec Luc Cornillon. Et puis, Captivant, premier album. Et puis après, très vite, il va partir dans un autre style de dessin vraiment particulier, donc hérité de cette fameuse ligne claire, où il va entraîner, par exemple, des gens comme Serge Clair, qui était là depuis le début aussi, qui travaillait à Rock et Folk.
Qui faisait également de l'illustration chez Opta, de couverture des
revues
fiction, notamment Serge Clair.
Serge a démarré très jeune.
Là-dedans,
et il y a la célèbre anecdote comme quoi la mort de Serge Clair avait écrit à Jean-Pierre Donnet pour lui demander que Jean-Pierre pousse Serge à passer son bac. Et Jean-Pierre avait répondu en disant que son garçon était plein de talent et qu'il allait réussir, quoi, alors qu'il n'en était pas sûr du tout. Et donc il y a cette influence sur Serge Leclerc, qui a vraiment un style au départ un peu mieux busien aussi, et puis qui devient très ligne claire sous l'influence de Yves Chaland, et puis d'autres qui suivent derrière dans cette ligne-là.
Il y a un grand aussi qu'on n'a pas cité, qui est Enki Bilal.
Alors Enki Bilal, il fait partie, tu vois, de ce que j'appelais les gens qui viennent de Pilote et qui repartent. D'accord. C'est-à-dire que tu as eu Mézières. T'as... Alors, ouais. C'est bizarre parce que Bilal, quand même, grand auteur de science-fiction au niveau dessin, finalement est resté plutôt fidèle à Dargo et à Pilote. Je pense, bon, il y avait l'aspect financier et puis son duo avec Pierre Christin, quoi, qui vraiment l'a beaucoup accaparé. Et même quand il a commencé à faire ses propres productions, comme La Foire aux Immortels, il aurait pu très bien faire ça, dans Metal Hurlant, ça aurait été génial. Et ben, il est resté chez Dargo, chez Pilote.
Ouais. D'accord. On a, alors on peut citer aussi, bon, Mézières, tu en as parlé, il y a aussi Skoyten.
C'est même les deux frangins, c'est-à-dire qu'ils ils venaient de l'école Saint-Luc à Bruxelles, et donc ils avaient un professeur qui lui-même a publié après dans Metal Hurlant qui s'appelait Claude Renard, et donc ils sont venus proposer leurs planches parce que à l'époque, il faut voir, la BD belge était encore coincée dans le journal de Tintin, le journal de Spirou, oui, un peu trop jeunesse, et pour cette génération-là d'auteurs belges, Metal Hurlant, c'était merveilleux, quoi. Il fallait être dedans, quoi. Il fallait en être, comme on dit. Et donc, ils sont venus publier, donc, notamment cette fameuse histoire Carapace, qui reste un must.
On trouve aussi Jacques Tardy.
Alors Jacques Tardy, c'est très particulier. Il fait partie aussi de cette génération venue de Pilote, on va dire, donc la première époque, quoi.
Il était chez Pilote.
Il était chez Pilote, très tôt, très tôt, disons, au début des années 70, quoi. Il avait même fait une histoire scénarisée par Giraud Moebius. Et puis après, quand il a démarré avec eux, en fait, il disait à Dionnet, moi je déteste la science-fiction, il en avait rien à foutre, mais paradoxalement, il a créé trois histoires qui n'ont jamais été republiés, je pense pour des problèmes, parce qu'ils sont fâchés maintenant, qui sont très steampunk avant l'heure, avant même que le mot existe.
Oui, je sais qu'il y a un album qui est paru en album qui reprend un peu l'univers de Jules Verne dans les glaces.
Alors ça, c'est le démon des glaces. Voilà, moi, je te parle d'un autre album, d'autres histoires qui sont en couleurs, avec des couleurs très vives, et où tu as des... une espèce de soldat d'opérette qui à un moment donné rencontre un vaisseau russe il y a un massacre qui se passe et il a fait trois histoires comme ça. Et puis après ils se sont fâchés parce que Tardy se fâche assez facilement je pense et puis il y avait quand même la création de À Suivre en 78 et il est parti chez À Suivre, ça faisait de la concurrence, d'où après une polémique sur un bouquin de Tardy mais bien plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le peu de temps qu'il est resté à Metal Hurlant, donc il y a ces fameuses histoires, on va dire steampunk, et puis il y a cette histoire scénarisée par Picari qui est absolument incroyable, qui s'appelle Polonius, et qui a été réédité après chez Futuropolis, et qui, pareil, on ne sait pas où on est, si c'est avant ou après l'Antiquité, puisqu'à un moment donné, il découvre une locomotive dans Polonius, et c'est un univers décadent, un peu à la Satyricon de Fellini.
D'accord, très bien. On peut peut-être dire aussi qu'il y a quelques femmes, dans l'univers, peut-être pas beaucoup dans l'univers de Metal Hurlant, mais il y a quand même Chantal Montellier.
Alors Chantal Montellier, elle arrive assez tôt, et donc elle publie cette série hallucinante qui fait très penser à 1984 d'Orwell, quoi, et qui s'appelle 1996, et le clin d'œil. Et puis très vite, enfin dès 76, on va dire c'est l'union des femmes. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que quand ces gars-là démarrent Metal Hurlant, ils sont en couple. Donc Jean-Pierre Dionnet avec Yannick, Nicolet avec Kellec, Tardy avec Anne de Lobel. Enfin bref, il y a comme ça un certain nombre de femmes. Et un jour, au cours d'un repas... je crois que c'est Yannick, elle dit « Ouais, quand même, j'aimerais bien qu'on fasse une revue féminine. » Et Dionnet lui dit « Bah, vas-y, quoi. » Et à ce moment-là, c'est la création donc, d'un journal unique, d'ailleurs, qui ça s'est plus jamais reproduit dans l'histoire de la bande dessinée, même de la presse, journal féministe de bande dessinée qui s'appelait Anana. Qui a duré donc deux ans, jusqu'en 78, qui était victime de la censure, parce qu'ils abordaient des sujets extrêmement brûlants, même pour l'époque. Mais en même temps, il parlait de du transformisme et c'était très intéressant.
D'accord.
Alors Gilles, Jérôme, tout ça est très bien et très intéressant, mais on va peut-être faire une petite pause musicale. Qu'en penses-tu, Jérôme ?
Mais tout à fait. On va écouter un morceau choisi par Gilles, un morceau de Art Bop, datant de 1956.
On s'en bat le hard bop.
C'est parti.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? À 23 pas du mystère sur Kaladma Radio. Notre émission de ce jour est consacrée à une longue interview de l'ami Gilles Poussin, historien de la bande dessinée, spécialiste de la revue Métal Hurlant. Nous venons d'écouter quoi, Jérôme ?
Alors, c'était un morceau d'un jazzman qui s'appelle Tal Farlow, qui s'appelle Taking a Chance on Love. Un morceau choisi par Gilles qui, on va le révéler, est lui-même bassiste dans une formation de jazz, la filiation.
Formidable.
Voilà. Après la pause, donc, on retourne à Métal Hurlant, la machine à rêver, toujours en compagnie de Gilles Poussin. Il y a aussi une composante non négligeable dans l'esthétique de Metal Hurlant, qui est quand même l'érotisme, et un érotisme un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'érotisme sadomasochiste. On voit ça dans les couvertures, notamment.
Oui,
alors, couvertures de Metal Hurlant.
Mais je trouve ça vraiment très intéressant avec le recul, parce que quand tu vois par exemple l'écho des savanes, que ce soit la première formule, la deuxième, est axée sur un sexe assez gaulois. Assez classique finalement. Et Dionnet, en fait, ce qui l'intéressait, c'était plus l'esthétique. Et c'est vrai que par exemple, avec l'album Gwendoline, qu'il a sorti très vite, une traduction donc, d'un auteur américain, John Willis, ça lui a rapporté un peu d'argent, même beaucoup plus que toutes les productions qu'il avait à ce moment-là.
D'accord.
Il racontait qu'il y avait des clients qui venaient, ils prenaient un Meubius, un Druillet, puis entre les deux, ils mettaient un Gwendoline, quoi.
D'accord.
Et ça, c'est.
D'accord. Et ça, c'est une veine qui a été quand même utilisée au fil du temps chez Metal Hurlant
de
poursuivre dans cette
esthétique. Voilà, c'est une esthétique, qui n'est pas permanente, mais qui réapparaît jusque vers la fin, où il y a à un moment donné un numéro spécial fétichiste, et avec un beau dessin de Kelleck d'ailleurs. Et il y a une fascination pour cette esthétique.
D'accord, très bien. C'est parti. Donc la revue va tenir jusqu'en 1987. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les dernières années de publication, avec qui a eu pas mal de changements quand même, de départ, de membres fondateurs, d'un rachat. Est-ce que tu peux nous...
Oui, c'est-à-dire que c'est très paradoxal parce qu'il y a un moment charnière très important en 1980, où le journal vraiment explose et est reconnu comme un des plus novateurs, avec des éditions étrangères d'ailleurs, nombreuses. Et c'est là où le premier à partir, donc, c'est Philippe Druillet. Un des quatre fondateurs. Donc, il part en 81, après des allers-retours. Hein, il y a eu, c'est un tempérament assez volcanique. C'est un départ définitif. Il retourne chez Largo. Et puis, Meubius, quand même, va s'éloigner. C'est-à-dire qu'il publie quand même son album majeur, qui s'appelle justement Major Fatal, qui est un recueil de toutes ses chroniques BD, les aventures de Jerry Cornelius,
héros de Michael Moorcock.
Voilà, et où il publiait, il se forçait à publier dans chaque numéro de Metal Hurlant en disant tant que je publie, le journal vivra.
D'accord.
Et à un moment donné, il faut quand même bien finir l'histoire, donc ils font cet album qui sort en 1979. À ce moment-là, en 80, t'as le numéro 50 où ils font un cadavre exquis avec 29 dessinateurs, coup dur à Stalingrad, ça n'a jamais été édité en album.
D'accord.
Et là, ils ont même des grands anciens comme Hugo Pratt qui viennent, qui publient ces bandes dessinées hors Corto Maltese qui sont chez Casterman. Le journal avance, ça se passe plutôt bien, sauf financièrement, une fois de plus. Ils sont rachetés donc par leur imprimeur espagnol, Lithoprint, qui réinjecte de l'argent. Donc, à nouveau, il y a un certain nombre d'années qui se passent avec Lithoprint. Et puis, comme je te disais, Meubius est parti à Tahiti. Enfin, il continue à publier l'Incal en épisode, mais il se détache quand même. C'est plus l'époque des copains, quoi.
Ouais.
C'est devenu très professionnel. D'accord. Et en plus, avec le départ de Druillet. Et Bernard Farkas, qui lui est parti très tôt, il est parti en 1977.
D'accord.
Et pour revenir à cette époque, on va dire des années 80, du premier mi-temps, il y a quand même une lassitude de Jean-Pierre Denet, qui est beaucoup occupé aussi avec Philippe Manœuvre par la télévision.
Oui, c'est ça, avec leur émission Les Enfants du Rock.
Voilà, c'est ça. Donc au départ, L'Impeccable, et puis après Sex Machine.
Ouais.
Et, alors ce qui se passe aussi, c'est que Jean-Pierre va beaucoup à la télé parce que il est très embêté parce que les Espagnols, les imprimeurs espagnols lui ont imposé une sorte de surveillant qui vient du journal Montrico et évidemment il y a une culture de presse totalement opposée et Dionnet n'est plus vraiment complètement maître de son bateau parce que c'était Meubius, Druillet, ils étaient cofondateurs mais il s'occupait pas de la gestion et de trouver les dessinateurs. C'était Dionnet, vraiment la cheville ouvrière. Et à un moment donné, il tente quelque chose, c'est de se diviser en trois. Rigolo, qui est une revue dirigée par Philippe Manœuvre, qui est axée sur l'humour et qui marche sur les plates-bandes de Fulgacial. Ils réussissent même à récupérer Daniel Goossens, mais c'est provisoire. Et puis, il y a Métal Aventure, dirigée par Jean-Luc Fromental, qui est donc, comme son nom l'indique, plus axé sur l'aventure, le policier, etc. Sauf, et puis Metal Hurlant qui continue, mais au lieu de tripler leur lectorat, en fait, ils le divisent par trois. Donc ça enfonce encore plus. Et alors, ils réussissent quand même à faire une collection absolument fondamentale qui s'appelle Autodafé, où tu as les premiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les romans graphiques, avec la traduction de Un bail avec Dieu de Will Eisner, Gen d'Hiroshima. Et aussi d'autres choses comme ça qui après vont se révéler être des bandes dessinées fondamentales, mais qui à l'époque passent à moitié inaperçues. D'accord. Et puis finalement.
Donc l'épisode espagnol, qu'est-ce qui se termine,
disons que Dionnet part en 85. Suivi de Manœuvre. Après, le journal est racheté par Hachette, avec un triumvirat, on va dire, Claude Gendreau, Bruno Lessigne et Salvatore Soldevilla. Le vaisseau s'écrase définitivement, en tout cas pour la première époque, en juillet 87.
Très bien. Ben, écoute, Gilles, on te remercie beaucoup pour
cette
suite de renseignements.
À 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Après le dossier, nous voici arrivés à la partie chronique de l'émission, chronique assurée par nos fidèles Geek Patrick pour la science-fiction.
Présent.
Et Miss Lemon pour le policier.
Présent.
Bienvenue, chers chroniqueurs et chères chroniqueuses.
La chronique de Geek Patrick.
Salut Geek Patrick. Alors, quel auteur vas-tu aborder aujourd'hui dans ta chronique ?
Aha. Auditeur de À 23 pas du mystère sur Caladma Radio, c'est votre Geek Patrick qui vient vous parler de petites perles de science-fiction. Pour cette deuxième chronique, nous allons parler d'une autrice de science-fiction américaine assez légendaire. Nous allons parler d'Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, elle a commencé à publier dans les années 60-70 à peu près, essentiellement de la fantasy et de la SF. Elle nous a quittés en 2018, mais elle est considérée aujourd'hui aux États-Unis comme une des écrivaines majeures de ces dernières décennies.
Et donc, tu vas pas nous parler de toute sa biographie, de quel livre vas-tu nous parler en particulier ?
Alors, on pourrait citer un petit peu rapidement ses ouvrages les plus renommés, ceux qui ont été primés notamment. Il y a La main gauche de la nuit en 69, il y a le cycle de fantasy de Terre-Mère, il y a le dit Daka, il y a Pouvoir, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « Les dépossédés ». Dans ce livre, qui a été récompensé en 75 par un prix Hugo, Ursula Le Guin nous décrit deux civilisations voisines. La première est située sur une planète appelée Uras, planète assez similaire à notre bonne vieille Terre. Pour la richesse de sa biosphère, pour son peuplement, elle est très peuplée. Par le fait qu'elle est fondée sur un système politique qu'on connaît bien, c'est le capitalisme, avec des nations en conflit, bref, du classique, on connaît bien, voilà. L'autre planète n'est rien d'autre qu'une lune de la première, et l'autre planète est dénommée Anarès. Cette lune dispose d'une atmosphère et sans doute d'eau, mais alors c'est à peu près tout. Elle n'a pas de vie animale et elle a de rares cultures possibles, donc c'est pas la joie. Pourtant, quand le récit commence, elle est peuplée depuis 200 ans environ par quelques centaines de milliers de personnes. Ces personnes ne sont rien d'autre que des habitants d'Uras, qui ont choisi volontairement de quitter leur planète d'origine.
Tiens donc, et pour quelle raison ?
Et c'est là que ça devient intéressant, pour fonder une société anarchiste, une société sans État, sans pouvoir en surplomb.
Alors c'est un noble projet, mais ils n'ont pas choisi la facilité, parce qu'il n'y a aucune vie sur Anarès.
Ouais, ça c'est sûr, la vie elle n'est pas facile sur Anarès, et ils ont parfois des périodes de quasi-famine. Et les habitants d'Anarès, en plus, ont choisi de réduire au strict minimum les liens qu'ils ont avec Uras. Des échanges de matières premières contre des biens, mais surtout très peu de communication entre ces deux planètes. Comme si Anarès ne voulait pas se laisser contaminer par une sorte de propagande capitaliste.
En somme, il voulait redémarrer à zéro sans l'aide de personne, comme dans l'an zéro.
Exactement. Et vous l'avez compris, le résultat de ce choix, c'est le résultat de ce choix qui fait la grande originalité du roman. Parce que ça va nous donner la possibilité d'explorer ce que pourrait être une société anarchiste. Et d'avoir ainsi une comparaison ou confrontation pacifique avec le modèle dominant que nous connaissons, le capitalisme. Car autant on a eu l'occasion de tester des sociétés à prétention communiste ou socialiste, autant les très rares expériences de sociétés anarchistes n'ont été réalisées qu'à une échelle minuscule, à l'échelle de ville, et sur des temporalités extrêmement réduites.
Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Tu es toi-même devenu anarchiste à la suite de ta lecture ?
That is the question à laquelle je ne répondrai pas tout de suite. La construction très habile de ce roman, en fait, il y a un chapitre qui est situé sur Uras, le chapitre suivant sur Anarès, et ainsi de suite. Et donc, cette construction nous permet de progresser en prenant conscience petit à petit des caractéristiques de chacune des deux sociétés, et en prenant conscience de l'envers du décor de chacun des deux modèles politiques. Parce qu'avec Ursula Le Guin, en fait, tout n'est pas noir et blanc, loin de là. Elle réussit tout d'abord à nous faire comprendre quel pourrait être l'état d'esprit, la vision du monde, d'une société authentiquement anarchiste. Et ce simple fait est déjà passionnant, par la différence radicale qui la sépare de celle des capitalistes du Uras, qui sont nos équivalents. Ainsi, on a bel et bien une société où chacun décide en totale liberté, non seulement ce qu'il veut faire de sa vie, mais aussi ce qu'il choisit de faire à chaque instant de sa vie. On peut par exemple choisir de ne rien faire et malgré tout accéder à des services collectifs d'alimentation et de logement. C'est un monde extrêmement collectif. J'entends par là que le concept de famille est extrêmement réduit. On peut faire des enfants bien sûr, mais ils sont assez vite confiés à des structures collectives et chacun a donc une perception, chaque membre d'Anarès, chacun habitant, a une perception collective de qui est son père ou qui est sa mère. Souvent les individus ont donc plusieurs pères et plusieurs mères. On peut, malgré tout, faire le choix d'un mode de vie très famille nucléaire, comme on la connaît dans nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est le choix du héros de l'histoire. Mais c'est quelque chose de rare. Et puis, c'est pas facile. Si on a choisi une activité à laquelle on tient, on peut avoir besoin de quitter sa famille pour aller trouver un poste disponible à l'autre bout de la planète, sans que le conjoint puisse faire de même, à moins d'abandonner son choix personnel. Tiens, dis donc, on retrouve une problématique, finalement, qu'on connaît bien sur notre bonne vieille Terre. Mais bon, chaque aspect de la vie, chaque activité sont organisées par des structures autogérées, sans qu'existe l'équivalent d'une autorité centrale qui serait l'État.
Donc dans cette société, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Eh ben non, parce que Ursula Le Guin montre qu'aucune société n'est parfaite. Déjà, cette société vit toujours au seuil de la survie, et là ça rigole pas trop. Je vous l'ai dit, elle a connu des épisodes de famine. Elle reste donc une micro-société de quelques centaines de milliers d'individus sur l'ensemble de la planète. Mais surtout, Ursula Le Guin montre, même de façon subtile et dissimulée, des enjeux de pouvoir qui existent. Elle montre que certains individus ont réussi à s'installer dans des situations où leur influence leur permet de tenir les rênes, en quelque sorte, et que ça peut être un facteur de fossilisation de la société. Tout le roman, il est donc fondé sur l'idée qu'il appartient à certains individus de faire bouger les lignes pour éviter un enfermement mortifère, quelque part.
Et quelle sera ta conclusion ?
Eh bien, conclusion, tu peux t'estimer heureux, mon cher Jérôme, parce que cette fois-ci, je n'ai strictement rien spoilé de l'histoire du roman.
Bravo.
Ouais, parce que ce roman contient aussi la découverte de la planète capitaliste Uras par un transfuge d'Anarès. Un transfuge qui est le fameux individu qui a fait bouger les choses sur Anarès et qui va faire bouger les choses sur Uras. Alors, auditeurs de Caladma Radio, pour en savoir plus, lisez Les Dépossédés d'Ursula Le Guin.
Et lisez d'autres romans d'Ursula Le Guin. Je pense par exemple à Le Nom du Monde et Forêt.
Exact.
Un très beau roman,
ouais, tout à fait.
Qui est à la fois écologique et anti-colonialiste.
Ouais,
pardon.
Tout à fait.
Voilà, notamment.
Conseil de lecture. Merci.
La chronique de Geek Patrick.
L'étoffe d'un héros. bonjour. Je suis ravie de revoir l'équipe de A 23 Pas du Mystère et de traiter avec vous l'aspect vestimentaire ou le rapport textile des héros de romans policiers et populaires. Alors, je vous pose la question suivante. Cette semaine, notre héros suédois, le commissaire Kurt Wallander, est-il plutôt un héros rugueux ou soyeux? Qu'est-ce que vous en pensez?
On verrait plutôt rugueux.
Alors, le commissaire Kurt Wallander a fait l'objet environ d'une douzaine de romans par son auteur suédois Henrik Mankell et ont été repris en série, notamment une version assez connue avec l'acteur Kenneth Branagh qui nous servira un peu de comparaison. Voilà. Alors, Kurt Wallander, c'est un mélancolique. Tout commence dans le roman autour de la quarantaine, toujours un petit peu l'âge crucial, avec un divorce subi, des difficultés à communiquer avec sa famille, notamment sa fille et son père, une alimentation désastreuse, et si les descriptions en fait, de son état varient au cours des romans, ce qui vieillit hein, évidemment, et qui suivent le fil de sa vie, on pourrait le qualifier d'engagé et même de dédié à son métier pour résoudre des cas difficiles et questionnant sur l'actualité suédoise. Alors côté textile, j'ai un petit peu analysé. Dans la penderie, cette fois-ci, de Kurt Wallander, on va trouver quelques chemises propres, des pulls plus ou moins chauds entre lesquels il hésite dans les romans qui se déroulent en hiver, des pantalons qui sont un peu passés de mode, il faut bien le dire, et un anorak pas toujours en bon état, pas toujours propre en fait, exactement. Donc souvent, il est question de la corbeille à linge sale plutôt que de la penderie, avec le linge propre. Et puis, par contre, dans sa voiture, il a toujours des bottes dans son coffre pour être tout terrain. Ce que Kurt Wallander n'a pas toujours sur lui, il prépare ses notes pour des communiqués de presse notamment, mais elles sont oubliées dans son bureau ou dans une corbeille à papier. Il oublie ses médicaments, surtout dans un des derniers épisodes, il a du diabète, mais voilà, il oublie ses médicaments. Il oublie son téléphone alors qu'il en aurait besoin quand il est face à des cas désespérés, ou bien son téléphone n'est pas rechargé lorsqu'il en a besoin en race campagne, qu'il est en rade. Voilà. Kurt Wallander, en fait, c'est un rateur d'occasion. Donc la routine qui lui permettrait de se remettre en ordre, de reprendre de l'énergie, de bien dormir, de bien manger, tout ça, elle est rarement suivie, ça est toujours plein de bonnes intentions, mais c'est pas suivi parce qu'en fait, il suit le fil des histoires de ses enquêtes. Et donc, c'est ce côté qui prime. Il faut dire aussi qu'il est déprimé. Donc, quand on est déprimé, on n'a pas toujours l'énergie de faire tout ce qu'on devrait faire. Et puis, il doute en permanence. Donc, il a bien conscience de tout ce qu'il rate, de tout ce qu'il devrait faire. Il réfléchit, il analyse, il recommence toujours. Et est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc, que ce soit pour les enquêtes ou dans sa vie perso. Et donc, il en arrive à la conclusion qu'il a raté des choses et qu'il a oublié des choses. Mais comme ses enquêtes, bah, sa vie, bah, elle est gérée au jour le jour parce qu'elle suit le chaos des maniaques, en fait, des histoires. Et quelque part, pour compenser ce manque-là, il va travailler non-stop. Du coup, il a une routine fragile qui est faite de café, de sandwichs plus ou moins bons. Et fatalement, à 50 ans, le diabète l'attend, dans les romans, notamment dans les Morts de la Saint-Jean. La série policière, en comparaison avec l'acteur Kenneth Branagh, va rationaliser beaucoup le style vestimentaire du commissaire, qui sera un petit peu plus moderne, on va dire. Et pour moi, je pense que son style est assez calqué sur celui de la série Shetland, qui est inspiré des romans de la Britannique Anne Cleves. C'est-à-dire qu'on le voit avec un caban, des jeans, un gros pull et des chaussures tout terrain. Donc vraiment, moi j'ai trouvé qu'ils avaient des profils tout à fait semblables. Voilà. Dans les livres, Kurt Wallander a plutôt des kilos en trop, il est hyper stressé par ses enquêtes, il gère très mal ses émotions et du coup, il a aussi comme une santé instable et de ce fait, il transpire énormément dans ses romans. C'est quelque chose qui revient tout le temps et dans L'homme qui souriait notamment, il a été arrêté plusieurs semaines pour des raisons de maladie liées à une situation antérieure dans un autre roman. Et il retourne au commissariat, il avait décidé en fait de démissionner, puis finalement il accepte à nouveau de retravailler. Il a un grand moment de stress, et donc il a une transpiration complètement fulgurante. Et il va dans son bureau, et sans autre secours, en fait, il va utiliser le rideau de sa fenêtre de bureau comme serviette pour éponger sa sueur. Voilà. Donc on peut imaginer facilement comment, pris dans un engrenage d'une enquête, sa penderie va se vider au fur et à mesure, et les chemises vont s'accumuler donc dans la corbeille à linge sale. Je pense qu'on a tous été confrontés à ces instants quand on a trop de travail, bien évidemment. De plus, il y a un aspect collectif dans la buanderie, dans l'immeuble de Kurt Wallander, par rapport à notre machine à laver personnelle. Et donc, il faut s'inscrire sur une liste pour pouvoir avoir une machine à laver disponible. Donc, il le fait, mais il oublie le créneau horaire. Donc, il faut replanifier, ce qui veut dire que je n'ai toujours pas de linge propre. Et il en arrive à la conclusion qu'à cas d'urgence, il pourra réutiliser une chemise sale dans sa corbeille. Voilà. Ou encore, quand il se change dans le bureau, il va glisser sa chemise sale dans son tiroir, par exemple, donc ce qui fait qu'elle n'est toujours pas lavée. Donc, Enid Mankell décrit soigneusement et avec une extrême justesse tous ces petits détails ennuyeux, désagréables de la vie qu'on connaît tous et qui nous ramènent à nos propres expériences de certains moments où on se sent un peu au bout de sa vie. Voilà, comme le diraient les plus jeunes. Donc souvent, il va analyser à la dernière minute sa tenue et son image. Notamment, dans L'homme qui souriait, il doit se présenter chez des particuliers pour enquêter, notamment un mania local. Donc il va se présenter au château et il est en train de réfléchir qu'il a un anorak et un pantalon pas très propre, mais que finalement c'est un petit peu trop tard et que tant pis, c'est pas parce qu'on habite un château qu'on va pas pouvoir répondre à des questions pour son enquête. Par ailleurs, il est assez maladroit. Ce qui fait que même quand il est propre, il va renverser son café parce qu'il est à moitié sur son siège de bureau et il téléphone. Et bref, c'est toujours trop tard. Donc de toute façon, il va manquer d'anticipation. Il va regretter, analyser ce qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait. Et c'est souvent un petit peu l'image qu'on retrouve au fur et à mesure des romans. Dans Les morts de la Saint-Jean, il finit par exemple par éviter de se regarder dans une glace. Parce qu'en fait, il enquête 24 heures sur 24 et il n'a plus le temps ni de se laver, ni de changer, ni de dormir. Donc à la fin, il ne se regarde même plus parce qu'il sait d'emblée à la tête de ses collaborateurs que l'image qu'il donne n'est pas formidable. Voilà. Mais bon, il a l'esprit trop occupé par le fil de l'enquête, il oublie, il suit son intuition et du fait, tout le reste devient plus ou moins invisible. De la même manière, son réfrigérateur est vide. Il lui arrive de faire des courses quand il y a des problèmes de santé et essaye de cuisiner des aliments sains ou avaler des médicaments. Mais ce n'est pas toujours Versailles, Byzance, comme on veut. Donc, en conclusion, pour moi, Kurt Wallander a vraiment l'étoffe d'un héros à la tendance rugueuse parce qu'il est persévérant, envers et contre tout. Il a conscience de toutes ses difficultés et aussi de sa difficulté dans les relations humaines. Il se rend compte aussi que les temps changent en Suède. Et que ça lui échappe, en fait. Il constate, il analyse, et finalement, il ne va pas changer son style pour autant. Et de mon point de vue, c'est ce qui nous rend un peu fidèles à ces romans qu'on a plaisir à lire ou à relire.
Miss Lemon, merci pour cette chronique. Geek Patrick, de même. Chers auditeurs, chères auditrices, il est temps de nous quitter. Donc ne manquez pas de jeter un œil à notre podcast
radio-calade.fr
dans la rubrique émissions culturelles.
Émissions culturelles, bien entendu. Voilà.
Donc sur cette page, vous retrouverez les références des ouvrages dont nous avons parlé et quelques informations complémentaires également. On se retrouve le mois prochain avec nos chroniqueurs préférés, Gilles Poussin, qui nous parlera de Métal Hurlant, encore une fois, mais deuxième mouture, une qui est beaucoup moins connue, Geek Patrick, qui nous parlera d'une trilogie parue aux États-Unis dans les années 2010.
Tout à fait.
On garde le suspense.
Exact.
Et Miss Lemon, qui nous parlera de l'étoffe d'André Anato, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est tout. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.